sortir de l'entre-soi par l'image avec Amélie Mouget et Vincent Versat.
Alors, bonjour, bienvenue. Amélie, j'ai l'impression que tu travailles à la Revue Dessinée. Peux-tu te présenter, dis-nous qui tu es pour des gens qui ne te connaissent pas?
Bonjour à tous, bien vu. Je travaille donc à la... Je suis journaliste, et c'est pas toujours un gros mot. Je travaille donc à la Revue Dessinée, qui est un trimestriel d'information en bande dessinée, qui ressemble à ça. Enfin, qui dans quelques semaines ressemblera à autre chose, puisqu'on a bouclé le prochain numéro et qu'il est sorti tout chaud de l'imprimerie. Nous, ce qu'on fait, c'est du reportage, de l'enquête, des témoignages en bande dessinée. On raconte des histoires et pour raconter ces histoires, on est une sorte d'agence matrimoniale de journalistes et d'auteurs de bande dessinée. On choisit des sujets ou des journalistes nous proposent des sujets et on va chercher la personne qui va réussir à traduire ces sujets dans son langage à lui ou dans son langage à elle, quel langage de la bande dessinée. Donc on les fait se rencontrer et ensuite on croise les doigts et on suit quand même leur travail qui prend parfois des mois et à la fin ça donne 228 pages de bande dessinée avec 5 gros sujets qui parlent d'environnement, qui parlent d'économie, de sujets de société, d'éducation. On va un peu sur toutes les thématiques qui nous semblent nécessaires et on les traite en profondeur. J'en dirai plus après, mais Vincent, qui es-tu?
Merci de poser cette question. Je suis vidéaste, activiste et youtubeur sur la page Facebook et la chaîne YouTube Partager c'est sympa. Et avec l'aide de 3 autres personnes, on produit une vidéo par semaine avec chaque fois un sujet différent qui donne l'envie et les moyens de s'engager pour construire un avenir plus juste et plus durable pour tous. On a commencé ça après une expérience de vidéaste pur pour pas mal d'ONG et on a réalisé qu'il y avait des choses à réinventer justement pour sortir de l'entre-soi. Ça tombe bien, c'est le sujet. Et ça marche, on est passé là en 6 mois de 30 000 à 80 000 abonnés, on les a fêtés hier. Et ça nous permet d'amener nos vidéos jusqu'à 23 millions de vues là et de toucher une audience de 18 à 35 ans.
Joli.
Merci. Et du coup, moi je me dis que là on s'est présenté, mais c'est un peu injuste, faudrait que vous puissiez aussi dire que vous existez. Alors je vous demande de vous lever. Allez-y, levez-vous. Et on va crier tous ensemble notre prénom. Comme ça on dit qu'on existe. Ça marche? Vous êtes prêts? À 3, donc ça fait 1, 2, 3 et on crie. Ça marche? Parce que des fois il faut se coordonner. Bref, ok. 1, 2, 3. C'est un peu timide, on la refait une deuxième fois. 1, 2, 3. Splendide, merci d'exister. Alors, mais on va pas s'arrêter là. Sortir de l'entre-soi, eh ben, ça peut être aussi intéressant dans cette salle même. Je vous propose de vous tourner vers quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est dans cette salle. Et vous allez avoir un échange assez court, hein, je vous rassure, ça va pas être non plus un déballage total. Ça va juste être 1 à 2 minutes, je vais vous donner le temps. Vous allez chercher à répondre à cette question. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir dans cette conférence-là, dans ce rassemblement qui est Prime Vert? Ok? Ça marche? Peut-être va falloir vous lever pour que vous soyez à côté de personnes que vous ne connaissez pas. Je vous invite à vous lever. Je vous dis le top dès que c'est parti. Et le top pour changer d'interlocuteur. On va vous avoir un peu. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner le micro maintenant parce que ce serait peut-être un peu long. Mais on a une petite idée de ce qui a pu se passer dans vos échanges. Peut-être que vous avez réalisé que vous n'êtes pas si étrangers les uns des autres. Peut-être que vous êtes ici parce que vous avez déjà des valeurs qui sont assez proches, que vous avez déjà envie de vous informer différemment, peut-être même consommer différemment. Passage de micro.
Et on se dit que l'entre-soi, finalement, on le constate un peu ici, avec une certaine forme de confort et de douceur. En fait, on voit qu'on est nombreux et c'est déjà super. Et en même temps, on on est beaucoup plus nombreux que ça à être concernés par les enjeux qui nous occupent. On est beaucoup plus nombreux que ce qu'on est là sous ce chapiteau et là dans ce salon à être concernés par les enjeux de justice climatique, par les enjeux de biodiversité. Et nous, se pose la question de comment, quand on a vocation à partager des histoires, des savoirs, des informations qui sont hyper cruciales pour les années à venir, se pose la question de savoir comment on va au-delà de nous, de vous, et comment on arrive à toucher d'autres gens. Alors, par l'image, peut-être, c'est un début de réponse dans l'intitulé de cette conférence. C'est ce que tu fais, toi, avec les vidéos, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, avec la bande dessinée. C'est peut-être un début de réponse. Je ne sais pas si tout tient là-dedans, dans l'image, mais en tout cas, il y a des nouvelles narrations à inventer. Et ces nouvelles narrations à inventer, on en ressent le besoin parce qu'on fait le constat que les narrations ou que les manières de parler aujourd'hui de ces sujets-là ne suffisent pas.
Première partie de cette conférence, le constat.
Alors moi, je vais parler de l'univers que je connais, qui est celui de la presse et du traitement de l'environnement dans les médias en général. Alors là, c'est chouette parce qu'on arrive dans le salon Primevert et on voit Silence, on voit Reporter, on voit des éditeurs, l'écologiste. On voit que c'est dynamique, il y a Kaizen, il y a plein de titres qui parlent de ces sujets-là, qui en parlent bien. Et on va sortir d'ici, on va se passer dans le bus, il va y avoir des infos où on va nous donner les chiffres de la croissance et on va retomber dans ce brouhaha ambiant où on a l'impression que ces sujets qui sont ici hyper importants, eh ben, passent en queue de journal, comme on peut dire. Enfin, ça va être la petite info d'ouverture. Et on voit très bien, alors, je ne sais pas, moi, pour avoir couvert la COP 21, alors on a vu tout le monde débarquer sur la question du climat. Et puis, un mois plus tard, c'était sorti des radars, quoi. Les journalistes environnement des médias classiques sont généralement très bons, très pointus sur leur sujet. Mais ils sont très rares et ils peinent à défendre leur sujet en conférence de rédaction parce que les ours polaires, ça va, quoi. Et fort de ce constat-là, on voit un peu cette impasse. D'un côté, on a des médias très pointus, mais qui parlent à un lectorat plutôt convaincu. Et de l'autre côté, on a la presse généraliste, les médias généralistes, la télé en particulier, pour qui c'est encore plus difficile apparemment d'avancer sur ces sujets-là, qui n'ont pas l'air d'avoir vu le problème, ou en tout cas pas vu la hauteur de l'enjeu. Donc pour nous, journalistes, se pose la question de comment on raconte cette transition énergétique nécessaire, ces enjeux de fond auxquels on est confronté, en allant chercher un nouveau public, sachant qu'on a deux difficultés majeures. Le premier, c'est que c'est hyper anxiogène. Généralement, ce qu'on nous rétorque en conférence de rédaction, c'est que c'est hyper plombant et qu'on a déjà fait la semaine dernière, on va peut-être pas recommencer. Et puis c'est encore loin dans la tête des gens. L'actu, c'est l'actu chaude, c'est l'actu de il y a une demi-heure ou de. Et quand on parle de. Quand on prend les dates qu'il y a dans les rapports du GIEC, par exemple, là c'est hors actu, quoi. Enfin, du coup. On a ce double défi à résoudre, de parler d'enjeux qui sont flippants, pas immédiats, alors que les médias fonctionnent beaucoup dans l'immédiateté, et peut-être si je voulais ajouter une troisième chose, qui sont diffus. On a plein de crises écologiques, donc je parlais de biodiversité, climat, au niveau des ressources, on a plein de petites crises et en fait, dispersées, fragmentées et construire un récit qui englobe tout ça, qui nous montre que tout ça c'est une seule et même histoire, c'est extrêmement compliqué avec les modes d'information qu'on a dominant qu'on a aujourd'hui. Mais heureusement, il y a des modes d'information différents, alternatifs, qui émergent en parallèle, notamment à ma gauche. Internet est un super champ d'expression et il est ce qu'on en fait. En l'occurrence, des vidéos sur YouTube pour vous. Chez vous aussi, enfin dans cet univers-là, moi je viens du papier plutôt, mais le constat elle-même, il y a un constat d'entre-soi à dépasser.
Oui, en fait sur Internet, je réalise que on est dans une surpersonnalisation du bonheur. C'est-à-dire que tout le monde est sur Internet à la recherche de son propre bonheur et du coup beaucoup de divertissement. Et ce qui fait que l'essentiel d'Internet, c'est des vidéos de chats et de pandas. Et je comprends, ça fait du bien des fois de voir des vidéos de chats et de pandas. Et en même temps, c'est pas forcément effectivement l'actualité brûlante ou l'intérêt profond qui va nous permettre d'avancer en tant que civilisation. Mais le constat, effectivement, il est là. On passe en moyenne 1h30 par jour sur les réseaux sociaux. Là, je parle de la génération des millennials. Ok, les petits jeunes comme moi, qui avons entre 16 et 35 ans, peut-être jusqu'à 40 ans, mais 35 ans plutôt. Et du coup, on passe 1h30 par jour sur les réseaux sociaux. Et en total, sur Internet aussi, on passe en moyenne 1h15, les 2/3 de notre temps à regarder des vidéos. Ok. Et je me suis dit, mais si les gens qui essayent de changer ce monde ne produisent pas de vidéos, c'est-à-dire que les 2/3 du temps qui occupe l'esprit des gens sur Internet ne va pas du tout être consacré à aucune des causes qui nous intéressent. Il va être consacré à des vidéos de chats. Alors je me dis, il faut qu'on fasse des vidéos. Et il faut qu'on investisse les réseaux sociaux aussi. Et là est venu un autre constat qui est principalement une autocritique d'ailleurs, qui est la vidéo militante. On a une mission et on a envie de faire comprendre à tout le monde que c'est maintenant qu'il faut se bouger, qu'il y a tel et tel événement auquel il faut participer, et on va commencer à communiquer autour de cet événement-là. Et moi, du coup, pendant 2 ans, avant de me lancer dans Partager c'est sympa, j'ai bossé pour la plupart des ONG environnementales françaises, et jusqu'à faire plus de 150 vidéos en une année. Et j'ai réalisé que je commençais un peu à me répéter. C'est-à-dire que je commençais la vidéo en disant « Oh, c'est abusé, le CETA, c'est pas bien !» Alors du coup, on se retrouve avec plein de gens et ensemble, on peut gagner. Et c'était ça le message. Et j'ai réalisé que c'était des vidéos qui étaient cool pour des personnes déjà convaincues. J'aime bien penser, d'ailleurs, je sais pas, je crois que c'est Alinsky qui a développé ça, mais il y a une espèce de demi-cercle entre ici des gens qui sont pas du tout convaincus et qui n'ont jamais entendu parler du sujet, et ici des gens ultra convaincus et experts du sujet et qui sont prêts à mourir pour le thème, ok ? Et je réalisais que mes vidéos, elles touchaient ce quart-là à peu près, des gens qui sont déjà sensibilisés, déjà intéressés par le sujet, et elles permettaient de ramener quelques personnes de l'intérêt vers l'engagement. Et elles permettaient de maintenir un paquet de personnes dans l'engagement. Ok, c'était trop bien de faire ces vidéos militantes parce que les militants avec qui je traînais me disaient « Putain, ça m'a donné trop la patate et tout, merci pour faire ces vidéos, ok. » Par contre, les autres... Tous mes autres potes ne voyaient juste pas mes vidéos. C'était pas pour eux, tu vois. Ils le sentaient dès le début que c'était pas pour eux. Donc, il y a comme un problème. On parle à un public convaincu, et un des problèmes principaux que je réalisais, c'est que on va dire le CETA c'est pas bien, mais on va pas prendre le temps d'expliquer ce qu'est le CETA et en quoi c'est pas bien. Ok. Un autre problème que j'ai vu, c'est que on, par souci de mettre en avant le mouvement et le collectif, on mettait pas de visage. Dans la communication, c'était on est un collectif, on est tous ensemble pour lutter, mais on n'allait pas mettre un visage, quelqu'un à qui on s'identifie. Okay ? Et troisième problème, c'est qu'il n'y a pas les moyens dans le monde militant pour faire des vidéos, parce que les vidéos, ça prend énormément de temps, ça coûte cher, c'est un savoir-faire qui prend aussi beaucoup de temps à acquérir. Et résultat, bah, quand on fait une vidéo, c'est un putain d'événement, et on en sort une fois l'année, et on espère qu'elle va buzzer à mort. Or, Internet ne marche pas comme ça. Internet marche avec la régularité, marche avec l'envie, l'impatience de voir la prochaine vidéo. Donc ces vidéos-là pouvaient juste pas marcher, même si elles étaient bien. Okay, elles sortaient de nulle part. L'audience n'était pas intéressée par une vidéo de base. Je sais pas si je continue avec le constat ou tu as envie de rebondir là-dessus.
Ben oui, tant qu'on n'a pas terminé le constat, allons-y.
On continue le constat. Un autre constat, c'est qu'est-ce qui marche sur Internet ? Qu'est-ce qui marche sur YouTube ? Bah, c'est des types qui filment leur gueule et qui parlent très souvent. Ce qui marche le mieux sur YouTube, c'est des gens qui parlent tous les jours, ok ? Au point qu'on a l'impression de les connaître et on s'identifie à eux et on a envie de vivre leur vie, ok ? Et en même temps, je réalise que mes copains youtubeurs qui font du super boulot comme La Barbe, Professeur Feuillage, eh ben en fait, ils vont parler depuis leur studio et ils vont pas proposer de solutions concrètes. Ils vont dire il y a un gros problème, mais ils vont pas dire qu'est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu peux faire par rapport à ce problème. Et ils ont aucun lien avec des assos qui proposent des solutions. OK ? Et pourtant, ça aussi ça marche très très bien sur Internet, de la vulgarisation, on s'informe. Parce qu'on aime bien savoir. Par contre, on n'est pas forcément sensibilisé à s'engager, à prendre le sujet entre nos mains. Okay ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est flippant de demander aux gens de faire quelque chose. Tu leur demandes de changer une habitude qu'ils ont, y compris leur bien-être des fois, quand on parle de consommer moins, etc. Donc pas du tout tout le monde est prêt à faire ça. Encore plus, vu que Internet fonctionne avec les pubs, et que les pubs, c'est acheter plus. Donc il y a plein de youtubeurs qui aimeraient bien parler de sujets écolo mais qui le font pas parce qu'ils sont trop dépendants des pubs.
Ah tiens, on dirait que dans les journaux parfois.
Il y a des similitudes ?
Quelques-unes. Mm-hmm. C'est vrai que l'indépendance au niveau des médias est hyper importante et l'indépendance non seulement des actionnaires mais aussi vis-à-vis des annonceurs. Je reviens à la COP21, il y avait énormément de sponsors qui avaient des activités par ailleurs légèrement climaticides et qui avaient des pleines pages de publicité pour vanter leurs actions en faveur de l'environnement dans les journaux. Il se trouve que quand on est dans un journal qui dépend de ses annonceurs, on n'écrit pas la même chose sur les sponsors de la COP21 que quand on est dans un journal qui ne dépend pas de ses annonceurs. Donc nous, il y a eu un enjeu d'indépendance et voilà, c'est juste une petite parenthèse par rapport à la publicité qui clignote sur votre écran, la publicité qui prend une pleine page dans le journal a aussi cet impact et on retrouve cette même schizophrénie qui empêche d'aller au fond du propos.
Moi j'ai envie d'en rester là pour le constat parce que on va pouvoir aller directement sur peut-être des solutions, nos petites recettes à nous. Nous on fait de l'image et en quoi on essaye d'utiliser l'image pour sortir de cet entre-soi. Est-ce que tu veux nous donner ta recette à toi ? Deuxième partie, la recette.
Alors, je ne suis pas sûre que ce soit une recette qu'il faille suivre à la lettre. C'est plutôt des grandes lignes. Enfin, voilà, ce sera plutôt les ingrédients, puis après, chacun les mélange comme il veut. Nous, la première chose, c'est sortir du flux. Parce que tout à l'heure, je parlais de l'actualité qui empêche de créer certains récits. Parce que ces récits, si on a besoin de s'accrocher à des événements, ils sont fragmentés. Comme tu le disais pour les vidéos d'ONG, quand on a besoin de s'accrocher à un événement, on a l'impression soit de redire toujours la même chose, soit de montrer une seule partie de l'histoire. Par exemple, les algues vertes en Bretagne. Il y a eu pas mal de presse sur le sujet, mais à chaque fois, c'était la dernière décision de justice par rapport à la reconnaissance du lien entre nitrate et la mort d'un jogger. C'était les sangliers retrouvés morts sur eux. Et voilà, ça faisait à chaque fois un article. On tournait la page, on passait à autre chose. Et c'est compliqué en lisant, même si on est un lecteur assidu, même si on est connecté sur ce qui se passe dans le monde, même si on... Enfin, je dis lecteur, mais ça peut être auditeur, téléspectateur, internaute. Mais c'est compliqué d'avoir une vue d'ensemble du sujet. Donc nous, en fait, notre méthode numéro un, c'est de sortir du flux. On ne va pas courir après le dernier événement. Par contre, ce qu'on va faire, c'est essayer de mettre toutes ces pièces du puzzle bout à bout pour raconter une histoire. Quand on met tous les articles sur les algues vertes bout à bout, tous les acteurs dans le même petit théâtre, donc quand je parle des acteurs, ça va être... les lobbies agricoles bretons, les responsables politiques à l'échelle départementale, régionale, puis les lanceurs d'alerte, les médecins, les victimes ou les familles des victimes. Quand on commence à réunir tout ce petit monde-là, à remonter dans le temps, on se rend compte que c'est un scandale sanitaire qui a un demi-siècle. Que depuis près de 50 ans, on sait qu'il y a probablement un lien entre agriculture intensive, production de nitrates et marée verte. Les premiers chercheurs ont présenté leurs conclusions devant des élus. Et puis là, on leur a dit non, mais c'est pas les bigorneaux qui mangeraient. À cause de la marée noire, il y aurait moins de bigorneaux. Alors, du coup, ils mangent moins d'algues. Du coup, il y a plus d'algues vertes. Enfin, des contre-discours qu'on a présentés pour que ces liens ne soient pas établis. Enfin, une fabrique, un peu une fabrique de la contre-vérité qui a dilué le message et qu'on a un peu oublié. Mais quand on raconte l'histoire des lanceurs d'alerte, de ce qu'on leur a opposé comme argument, l'avancée sur le terrain au niveau militant, l'avancée au niveau législatif et en même temps la persistance du problème quoi, qui année après année, malgré des plans algues vertes, continue à se développer. On a des années records alors que ça fait un petit moment qu'on a mis en place ces plans-là, enfin ces réponses politiques-là. En fait, quand on met tout ça ensemble, qu'on le scénarise un peu, qu'on le tourne un peu comme un polar, qu'on utilise des couleurs pour faire verdir les méchants quand ils sont mis face à leurs contradictions, là, ça devient haletant et ça devient sidérant. En fait, ça marche comme une démonstration, comme un récit qui nous plonge dans une histoire. Et en fait, un lecteur qui n'en a peut-être rien à fiche des algues vertes, qui habite pas du tout en Bretagne, il va lire parce que on commence sur une plage avec une scène de crime et on a envie de tourner la page pour savoir ce qui s'est passé. Et donc nous, c'est le deuxième ingrédient de la recette, l'histoire et les personnages de l'histoire. Tu parlais tout à l'heure du sentiment, enfin. De l'identification et de l'importance de l'identification. Nous, ça passe par dans nos bandes dessinées, il y a les personnages de bandes dessinées. Et les interlocuteurs des journalistes et les gens de la vraie vie, ils se transforment en petits bonhommes qui interagissent et qui font des onomatopées. Et d'un coup, ça rend le sujet beaucoup plus humain et beaucoup plus vivant. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important aussi. Sortir du flux, raconter des histoires et le raconter de manière, troisième ingrédient, de manière créative et singulière. Parce qu'il y a une uniformisation de l'information. On a l'impression, il y a des copier-coller de dépêches AFP qu'on retrouve sur à peu près tous les sites de media.fr. Et en fait, on oublie, on voit plus du tout l'humain derrière. On assume une part de subjectivité parce qu'on fait appel à des créatifs, à des dessinateurs qui ont leur regard sur ce sujet-là, qui ont leur envie, leur humour souvent, parce que la bande dessinée, ça permet aussi ça. Et du coup, ça fait que c'est un être humain qui va parler à d'autres êtres humains. Et ça, c'est chouette. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, et généralement, c'est beau aussi, parce que on va chercher quelqu'un qui va mettre son art du dessin au profit d'une histoire qui n'est pas la sienne, mais qui va le toucher. Si on met un dessinateur... Là, on a une grosse enquête sur le prix de la nature. Est-ce qu'on peut donner un prix à la nature et tous les systèmes de biobanque? Je ne sais pas si vous avez entendu parler des systèmes de compensation ou d'actifs naturels. Voilà. Alors, c'est pareil, c'est un peu diffus, mais quand on reprend l'histoire de ces processus-là, qui... grosso modo, consiste à donner un prix. Le principe de base, c'est si on détruit la nature, c'est parce qu'elle n'a pas de prix. Alors, si elle n'a pas de prix, on ne la voit pas. Donc, si on lui donne un prix, on va se mettre à la protéger, dans une logique où tout est financiarisé. En fait, on se rend compte, en rentrant un peu dans le détail, que c'est pas si simple que ça et que ça cache quelques effets pervers. Et du coup, ce sujet-là, qui est hyper compliqué, parce qu'on parle, on remonte dans les années 70 aux États-Unis, on arrive à Reagan, puis on arrive aux banques de biodiversité dans la plaine de l'Accro. Enfin, il y a vraiment un truc. Il faut qu'on ait un dessinateur qui a envie de s'y coller. Et donc, du coup, on va chercher des gens qui ont une sensibilité particulière. Et c'est avec cette sensibilité-là qu'ils vont parler au lecteur. Et ça, je pense que ça réhumanise un peu la manière dont on raconte les choses. Je pense que c'est hyper nécessaire. Et en plus, ça... Nous, il y a un côté ludique. Enfin, ludique, c'est peut-être un peu... Quand on lit une bande dessinée, on lit ça pour ce qu'on va apprendre, mais on lit ça aussi parce que ça va nous faire ressentir des choses. Et donc, aller sur le volet émotionnel, c'est aussi important. Voilà, trois ingrédients, il y en a probablement beaucoup d'autres, et c'est peut-être pas forcément les mêmes que les tiens, parce que c'est pas les mêmes images.
C'est presque les mêmes, mais c'est genre presque opposé. C'est-à-dire que moi, je vais utiliser l'actualité à fond pour parler du sujet dans son ensemble. Donc, je vais ma première recette, c'est de partir se mettre à la place de l'audience. Et quand je dis se mettre à la place de l'audience, ça veut dire vraiment penser que la personne n'a absolument pas du tout envie de regarder ma vidéo. Elle s'en fout du sujet. Elle a sa vie, ses problèmes. Et elle n'a aucune raison de me donner son attention pendant les 4 à 5 minutes de ce que j'essaye de lui dire. Okay ? Donc, je me mets à la place de cette personne et je me dis, qu'est-ce qui va faire sens pour elle ? Qu'est-ce qui va accrocher son attention ? Et c'est ça que j'utilise. Et des fois, j'utilise du coup l'actualité. Je n'ai pas osé aller jusqu'à utiliser l'actualité de la mort de Johnny Hallyday, mais c'est un peu l'idée, quoi. Et vraiment, je dis un truc sur lequel on est saturé d'informations. Et un exemple très concret, du coup, c'est que c'est ça qui me sert d'accroche dans les vidéos. Par exemple, j'ai envie de parler de zéro déchet. Je vais pas dire il y a un vrai problème, c'est les déchets. Du coup, je vais te parler de zéro déchet. Ok ? Là, il y a pas d'accroche. Je parle de moi. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème. Et je dis, toi qui regardes, tu devrais t'intéresser au truc que moi je trouve pose un problème. Ça marche pas comme ça. Sur Internet, il faut partir des gens, de ce qui les intéresse eux. Et du coup, je me suis dit, ce que vivent les gens maintenant, c'est les soldes. Absolument partout où ils regardent, il y a écrit solde, 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 achète maintenant, fais-toi plaisir, etc. Donc c'est ça l'univers dans lequel la personne qui pourrait regarder ma vidéo est. Donc ça va être ça mon accroche. Ok, je vais utiliser les soldes et après ça, je vais amener la vidéo vers halt à l'obsolescence programmée et le zéro déchet. Autre truc sur lequel on était saturé d'informations, c'est les présidentielles. Ok, il n'y a pas de moment où l'information n'est pas plus saturée que ça. Et moi, j'avais envie de parler de communication non violente, de savoir transformer les conflits, parler avec quelqu'un qui a des opinions différentes. Et du coup, j'ai utilisé l'accroche des présidentielles et j'ai fait 5 trucs pour parler avec un connard. Et ça, c'était une bonne accroche. Parce que connard, on ne sait pas lequel on parle. Tout le monde peut trouver un connard. Du coup, plein de personnes ont regardé la vidéo avec d'autres intentions. Et encore une fois, j'utilise des trucs... Moi, je ne m'embête pas, ok ? J'utilise des trucs qui marchent. Je pars de ce que les gens aiment déjà regarder. Et les gens aiment bien regarder des listes. Une liste, c'est bien. Il y a 5 trucs, donc tu vas apprendre 5 machins différents. Et puis, c'est clair dès le début. Et puis, zou, ça déroule. Alors du coup, j'utilise 5 trucs, une liste. Et en fait, dans cette liste, j'aurais pu présenter ce plan de manière complètement différente. Mais j'utilise la liste parce que ça marche bien. Pareil, je vais utiliser le vlog, le fait de se filmer soi-même. C'est pas parce que je suis un gros narcissique, c'est parce que je vois que c'est la meilleure manière d'emmener les gens au cœur de l'action. Ok, le format vlog avec un narrateur principal et un style d'image bien particulier, le grand angle où du coup on voit tout ce qui se passe derrière la personne qui te parle, le drone, les ralentis, tout ça. C'est un format qui marche bien pour faire vivre à l'audience ce que toi t'es en train de vivre. Ok. Et pour le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est des vidéos que j'ai faites, c'est celle sur le bloquer une mine. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous ressentez les mêmes émotions que moi quand j'ai bloqué cette mine. Donc je pars de ce que vivent les gens en me posant vraiment la question, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir ? Parce qu'ils s'en foutent en soi. Donc je vais pas leur raconter ce qui est important pour moi, je vais leur raconter ce qu'eux ont besoin de savoir. Okay ? Et ça c'est hyper dur pour les orgas. Parce qu'elles ont tellement travaillé pour chercher un sujet, pour accumuler toutes les preuves. Elles ont envie de dire que ça fait 2 ans qu'elles ont travaillé sur le sujet, que X nombre de bénévoles se sont mobilisés et tout. Mais en vrai, la personne qui regarde la vidéo n'a pas besoin de savoir ça. Ok ? Et du coup, je dégage tous ces trucs-là. Donc, il y a un gros enjeu de ne pas chercher à tout dire. même de chercher à dire le moins possible, parce que c'est comme ça que tu arrives à faire des vidéos courtes, et de simplement susciter l'envie d'aller plus loin. Ok, j'ai pas vraiment d'autre mission. Mais par contre, moi, je m'oblige à tout savoir sur le sujet. Ok, ça c'est, à mon avis, c'est hyper important. C'est là, je suis en train de réfléchir à comment je vais parler de Bure et de l'enfouissement des déchets nucléaires. Je vais sûrement pas tout traiter. C'est une longue histoire et on n'en est pas sorti. Mais par contre, il faut que je connaisse tout pour être en capacité de vulgariser et de me concentrer sur ce que les gens ont besoin de savoir à ce moment-là.
Et du coup, quand la curiosité est aiguisée, allumée, nous, on a lancé des journalistes sur le sujet Bure avec des dessinateurs. Et donc, la passerelle est toute trouvée. Nous, il y a peut-être... En fait, je pense qu'il y a une complémentarité aussi en t'entendant parler des approches. Je pense que, en fait, je vois la prise de conscience comme un chemin avec pas mal d'étapes et ça correspond à la courbe dont tu parlais. Et c'est vrai que nous, on prend peut-être nos lecteurs à l'étape d'après, une fois que y a une forme de curiosité, mais pas forcément pour ces sujets-là en particulier. Parce que le quatrième ingrédient de la recette, c'est probablement ce que j'appelle le phénomène festival. On va à un endroit, on va à un festival parce qu'on a envie de voir un groupe, et puis finalement on va en voir plein d'autres et on va faire des super découvertes. Nous, comme on est une revue avec pas mal de sujets, on parle pas du tout que d'environnement ou que d'écologie ou que de thématiques liées à une transition, mais les personnes qui nous lisent vont piocher parmi des sujets de société. On va faire un an d'immersion dans une école, et pour cette raison là il y a peut-être des profs qui vont nous lire, et trois pages plus tard, il y aura un sujet sur, je sais pas, le sujet dont je vous parlais, sur les banques de biodiversité. Et du coup, ça permet d'ouvrir un peu le champ et la perspective des lecteurs. Ils viennent vers nous pour un sujet ou parce qu'ils aiment la bande dessinée. Et nous, hop, on les amène vers d'autres sujets qui n'auraient peut-être pas éveillé leur curiosité sinon. Il y a aussi un peu de ça dans votre démarche.
C'est exactement ça, ouais, carrément. D'ailleurs, ça fait partie de l'aspect un peu stratégie de ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que on essaie d'avoir des vidéos. On va pas faire genre 5 vidéos à la suite sur les enjeux climat, ok ? On va essayer de mettre au milieu une vidéo sur voyager sans argent, après une vidéo sur la communication non violente, après une vidéo sur la justice sociale, et essayer comme ça de faire venir des communautés de plein de côtés différents. Et des communautés qu'on va rassembler. En fait, on va éveiller un intérêt pour certains thèmes, effectivement. Et on va, même, c'est plus que ça, c'est que on va, le fait que partager c'est sympa traite de tous ces sujets-là avec les efforts qu'on fait pour vulgariser et le rendre intéressant et beau, fait que des orgas qui travailleraient pas normalement ensemble travaillent ensemble du fait de la qualité de contenu qu'on propose. Vu qu'il n'y a pas d'autres logos, il n'y a jamais de logo dans les vidéos partagées sympa, bien qu'on parle de plein d'ONG différentes, il y a des ONG qui vont partager une vidéo qui parle d'une autre ONG avec lesquelles, pour le moment, ils ne bossent pas. Okay ? Et ça, c'est un truc qu'on essaie de faire à la fois au sein de la communauté de personnes qui vient regarder les vidéos et qui vient s'abonner, mais aussi créer des ponts et des liens entre des orgas qui ne pensent pas forcément à travailler ensemble. Surtout aux différents niveaux. Tu vois, une petite orga très locale qui va créer des bâtiments écolos, et puis l'ADEME, dont la mission est de mettre en place le plan climat au niveau français, et dont il y a tout un truc sur l'habitat aussi, quoi.
Je remonte un peu le temps. Tu parlais de la manière dont tu t'appuies sur l'actu, et si tu avais pu parler de Johnny Hallyday, d'une manière ou d'une autre, tu l'aurais fait. En ça, en fait, notre démarche n'est pas si différente. On conçoit nos sujets complètement en dehors de l'actualité. On se dit, là, il y a quelque chose... il faut qu'on aille sur ce sujet-là, parce que ça nous paraît important, parce que... je ne sais pas si certains étaient là pour Linky tout à l'heure, mais moi, je me dis que c'est vraiment un sujet qu'il faudrait qu'on y aille aussi. Donc, on choisit sans regarder ce qui a buzzé la veille ou l'avant-veille. Par contre, quand il y a quelque chose dans l'actualité qui résonne avec nos sujets, on s'empresse de les mettre gratuitement sur Internet et de dire aux gens, feuilletez cette vidéo, pour s'appuyer sur ce moment dont tout le monde va parler. Par exemple, la semaine dernière, il y avait une grève à la Cour nationale du droit d'asile. Je ne sais pas si vous avez... ça n'a pas buzzé, c'est de l'actu qui passe malheureusement bien trop en dernier plan et un peu... qui est difficilement visible. Mais nous, ça nous a permis de remonter un reportage qu'on avait fait en immersion dans la Cour nationale du droit d'asile pour comprendre comment ça fonctionnait, comment quelqu'un qui demande asile en France va voir son dossier examiné en moins d'une demi-heure. En fait, on a un gros travail de journalistes qui avaient passé pas mal de temps à suivre des rapporteurs, des avocats et des cas particuliers. Et donc, on s'appuie sur quelque chose qui réémerge dans les radars médiatiques. Au moment des présidentielles, on avait suivi des formations de cadres au FN. Comment le FN essaye d'apprendre à ses membres à se tenir, quoi. Enfin, à avoir une parole lissée et plus consensuelle qu'il l'aurait avec des gens qui partagent leurs idées. Et ce reportage était génial. Enfin, l'immersion s'est fait par une historienne des négationnismes et extrême droite. Le reportage était génial. Au moment de la présidentielle, on l'a mis en accès libre et là, ça a de nouveau circulé. Donc, ta méthode de t'appuyer sur ce qui en ce moment fait le buzz un peu et en profiter pour apporter notre regard à nous, je pense que c'est hyper efficace. Je ne sais pas si toi, tu as constaté des moments où... Je ne sais pas si le succès de tes vidéos est corrélé au buzz du moment. Enfin, plus un sujet fait de la mousse et plus ça marche pour toi, je ne sais pas.
C'est une science absolument non maîtrisable. Il y a des vidéos, je ne comprends pas pourquoi elles ont bien marché. Et il y a des vidéos, je ne comprends pas pourquoi elles marchent pas bien. Parce que j'y suis aussi attaché, évidemment. Et puis, je connais tous les efforts qu'on a fait des fois pour arriver sur des sujets. Mais oui, c'est une science qui est vraiment pas claire. Et par exemple, moi, la vidéo qui m'a trop surpris, c'est une vidéo sur résister à la publicité, c'est sympa. Et c'est une vidéo que j'ai écrite en 2 heures dans le train. Je l'ai filmée en 1 heure dans la gare de Paris avant de partir à Lyon et passer peut-être 1 heure avec des types qui éteignent où on s'est amusé à éteindre les façades des bâtiments. Et ça en a fait un sujet complet sur la publicité et la présence des marques dans notre environnement direct. Et en fait, cette vidéo, elle a super bien marché parce qu'il y avait un phénomène de saturation en face de l'audience, des gens qui regardent les vidéos, par rapport à cette publicité-là. Et c'était pas grand-chose le fait d'éteindre ces panneaux, mais n'empêche que ça résonnait comme un « Ok, on peut reprendre le pouvoir, quoi ». Donc il y a quand même des éléments comme ça qu'il faut pas louper pour qu'une vidéo marche bien. C'est clairement donner du pouvoir aux gens, parler d'une certaine manière aux émotions qu'ils vivent. Et là, moi, j'évite de faire trop ça parce que voilà, moi, mon ton, c'est clairement celui ludique, joyeux. On peut faire des machins, mais je sais que par exemple que Ludo de Osons Causer, son objectif, c'est d'aller chercher la colère des gens. C'est de la faire ressortir et amener cette colère jusqu'au moment où il propose aux gens de partager la vidéo pour faire connaître le problème. Okay ? Et c'est ça le jeu de ces vidéos, c'est aussi mettre en avant cette colère, dire on est en train de se faire avoir, donc écoute mon sujet et après ça diffuse l'info pour qu'on avance. Et moi ma frustration là-dedans c'est putain t'es en colère et le seul truc qu'on propose c'est diffuser l'info, c'est un peu dommage quand même, il y a des choses qu'on peut faire avec cette colère. Et ça c'est un chemin aussi... qui m'intéresserait bien d'explorer. Mais en fait, le point commun entre Ludo et moi, quand même, c'est qu'on essaie de raconter une histoire. Okay ? Et ce choix-là, il est bien conscient. Et c'est la même chose que tu fais. Tu vois, toi, tu dis, ah, les algues vertes, c'est, en vrai, c'est, on peut en parler en plein de petits événements, mais moi, je vais raconter comme un polar. Et c'est exactement ça. Et c'est le plus gros travail pour les vidéos, c'est trouver l'angle. Quelle histoire je vais raconter ? Qu'est-ce qui va servir de fil rouge tout du long ? Et des fois, on se casse la tête et cet angle souvent se concentre dans le choix du titre de la vidéo. Et des moments, il y a une illumination, tu vois. Quand je me suis dit, ah putain, en fait, Macron, il a envie d'avoir la classe. Alors, on va lui dire comment dominer le monde climatique. Et je vais parler comme ça du plan climat. Avec l'angle, Macron, je vais te donner des conseils pour que tu puisses être le gars le plus stylé sur la sphère internationale, sur le plan du climat. Et en fait, ça me permet, en 5 étapes, de parler du plan climat et de ce qu'il y a dedans. Et cette vidéo, elle a été reprise par Minute Buzz, les chaînes sur lesquelles il y a beaucoup de vidéos de chats. Okay ? Mais il y a aussi 4,7 millions de personnes qui sont abonnées à cette page, dont plein de gens qui sont visiblement pas du tout d'accord avec les idées écologiques, et ça se sent dans les commentaires. Mais c'est très bien. Moi, mon objectif, c'est de réussir à amener mon sujet là où il n'est pas là pour le moment, ok ? Et c'est un peu dur, parce que des fois, du coup, il faut que je sacrifie des trucs. Pour un vidéaste, faire une vidéo au format carré, ça fait mal au cœur. Parce qu'il y a quand même une bonne moitié de l'image que tu n'utilises pas, du coup. Donc tu joues dans un carré, c'est nul, c'est l'impression d'être en prison. N'empêche que le carré est vu 9 fois plus sur les réseaux sociaux que le format 16/9, l'image d'habitude qu'on a l'habitude de voir. Et donc ça, il faut s'y plier, quoi.
Et ça donne la consécration de Minute Buzz à la fin. Nous, ouais, je pense que l'efficacité, je suis hyper jalouse en fait, parce que quand je vois qu'en 2 heures, on arrive à atteindre autant de gens avec un message aussi efficace, nous, pour une bande dessinée, il nous faut 6 mois. Et en même temps, je pense qu'il y a une complémentarité très forte entre le travail de fond. Alors nous, on ne cherche pas à être exhaustif, on cherche aussi à raconter des histoires, sauf qu'on va plutôt s'appuyer, plutôt que de s'appuyer sur un concept ou des listes, ou, on va plutôt s'appuyer sur des personnages. Par exemple, là, on a un sujet sur les parafoudres radioactifs. En gros, dans les années 70, il fallait la téléphonie se développait vitesse grand V, et il y avait un petit problème avec la foudre, et donc du coup, il a fallu installer des parafoudres sur les boîtiers. Or, il y a plein d'éléments radioactifs là-dedans. C'est hyper complexe. L'enquête est hyper complexe. Ça court sur 4 décennies, il y a une multiplicité d'acteurs, c'est technique, c'est scientifique, on parle de millisieverts, ça pourrait être chiant. Et en même temps, il y a des personnages qui sont bluffants. Il y a 3 syndicalistes d'Auvergne qui ont commencé à se poser des questions. Puis il y a un médecin qui est rentré dans la boucle, et les 3 syndicalistes s'appellent entre eux le bon, la brute et le truand. Et leur but, c'est de faire trembler France Télécom à l'époque, Orange aujourd'hui, avec cette question de la responsabilité vis-à-vis de ces parafoudres radioactifs. Et en s'appuyant sur des personnages au caractère bien trempé comme ceux-ci, on arrive à rendre ce sujet, qui pourrait être hyper technique, abordable. Donc je pense qu'il y a une proximité. On a à chaque fois on parle de gens aux gens. Et là, d'un coup, ça marche. Et c'est vraiment ce que tu fais sur la narration, chercher une histoire. Nous aussi, on cherche des histoires. On a un sujet, mais c'est pas gagné quand on a un sujet. Il va falloir qu'on cherche fabriquer notre petit théâtre avec... alors, c'est quoi la tension narrative? C'est quoi l'enjeu? Vers où ils vont? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Et chercher à l'intérieur du sujet que tout soit vrai, et en même temps qu'on lise ça comme on lirait de la fiction, et qu'on y prenne le même plaisir qu'en lisant une bande dessinée de fiction. Et c'est là tout le défi pour nous de création, de transformation de l'information. Bon, des fois, on fait des petits pas de côté. Par exemple, dans le dernier, on a une enquête sur la voracité immobilière des hypermarchés qui vont toujours manger plus de terres agricoles, parce que vu qu'ils sont de moins en moins rentables, il faut qu'ils développent avec les galeries marchandes autour des systèmes de loyers qui vont nourrir, qui vont générer de la rentabilité, parce que la rentabilité de l'activité vente stagne. Donc il y a tout ce système là et bon, il y a en effet un caddie qui parle. Donc là, on prend quelques libertés par rapport au réel, on glisse un peu dans la fiction, on a quelques procédés narratifs comme ça qui vont nous permettre de rendre des enquêtes économiques qui a priori seraient que moi j'aurais pas lu si ça avait pas été en bande dessinée. Par exemple, on a fait les partenariats publics-privés, les emprunts toxiques, comprendre comment une commune qui a contracté des emprunts auprès de banques s'endette et se retrouve dans une situation de captivité hyper forte. Les emprunts toxiques, je vous mets au défi de lire un article économique sans piquer du nez. Eh bien, en bande dessinée, ça marche. Parce que le dessin va nous permettre de dire en une case ce qui nous aurait fallu trois paragraphes pour développer. Et je pense que c'est le truc le plus chouette que j'ai lu, ce sujet sur les empreintes toxiques. Alors qu'à la base, en lisant le titre, je... non, quoi. Enfin, j'avais pas d'appétence particulière pour ça. Et je trouve que c'est quand on va sur des sujets comme ça, hyper complexes, et qu'à la fin, on se dit « Ah, je me sens plus intelligent, et en plus, j'ai passé un bon moment, et j'ai ri que nous, on remplit notre mission, et qu'on relève ce défi-là de mettre à la portée du plus grand nombre. » Alors, après, moi, je suis hyper consciente des limites. On est en librairie, on est papier, on touche pas toutes entre tes vidéos et nous. Je pense qu'on réduit largement le spectre de la population qu'on peut toucher. Et en même temps, y a un travail aussi d'essaimage. Je pense qu'on diffuse des idées, on décortique des mécaniques délétères. Et une fois que les gens ont ça à l'esprit, ils peuvent en parler aux uns aux autres. Une fois que c'est clair pour eux, ça devient un sujet de conversation et ça se diffuse comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois notre manière aussi de sortir de l'entre-soi.
Un dernier point avant qu'on vous donne la parole, parce qu'on est curieux aussi. C'est marrant que tu parles du bouquin comme quoi tu touches moins de monde. Moi, j'ai un peu le problème maintenant qu'il faut qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je lui explique le sens de faire des vidéos, en fait. C'est encore un combat quotidien d'expliquer que si tu veux faire une mobilisation, avoir un budget pour faire des affiches et des flyers, c'est bien. C'est encore mieux d'avoir peut-être un budget pour faire des vidéos. Et même des fondations qui ont la mission de mettre en avant un sujet, elles vont allouer énormément d'argent à faire des bouquins sur le sujet et rien du tout pour faire des vidéos. Alors moi, il faut qu'à chaque fois j'arrive et je dise, en fait, voilà, avec les vidéos, je peux toucher 2 millions de personnes en une semaine. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et c'est long, c'est lent, mais c'est un processus aussi de mettre ce format d'image-là en avant, quoi.
C'est drôle parce que, en fait, c'est un peu des... On pêche par absence de légitimité. Enfin, on a une légitimité à construire en même temps qu'on avance. Moi, je ressens un peu la même chose plutôt sur le côté... de la bande dessinée, c'est pour les enfants. Ah non, on en est encore. Alors que pour moi, la bande dessinée a démontré des dizaines de fois sa légitimité à parler de choses sérieuses, depuis Maos jusqu'au reportage de Joe Sacco. Et de la même manière que tu as à batailler pour démontrer la légitimité et la pertinence de faire une vidéo, alors que la vidéo a montré son efficacité, c'est... ça montre que c'est une bataille quand même de faire avancer cette diversité de médias et de faire en sorte qu'on considère une vidéo, de la bande dessinée, un jeu vidéo avec la même crédibilité qu'un long article papier un peu austère imprimé sans couleur. Il y a des choses à faire avancer aussi là-dessus.
Alors bonjour. Déjà, j'aimerais vous remercier d'être venu ici. Je trouve que votre travail est vraiment inspirant. En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup. Et par rapport à la conférence, je voulais savoir simplement qu'est-ce que c'était l'entre-soi. Parce qu'il n'y a pas eu de définition et je suis curieux de savoir.
À fond, tu veux répondre ?
C'est peut-être un petit bout de réponse, mais je me dis, pour les problématiques environnementales, je me dis que l'entre-soi, c'est parler à des gens qui ont déjà une conscience plus ou moins forte du problème. C'est un tout petit bout de réponse, si tu as mieux.
Pour moi, l'entre-soi, c'est le fait de se retrouver toujours avec les mêmes personnes aux mêmes événements. Alors c'est cool, c'est une belle communauté, mais en même temps, on a besoin de grandir. Et pour moi, sortir de l'entre-soi, c'est quand il y a quelqu'un qui vient me dire au cœur d'une manif, « Mec, je suis là parce que j'ai vu tes vidéos et mes parents, ils comprennent pas pourquoi je suis là. » Tu vois ? Là, on est sorti de ça. Okay. Et encore, on reste... Moi, j'ai bien conscience que je reste encore dans un entre-soi. Okay, la manière dont je m'exprime, le fait que je suis un homme blanc qui m'adresse souvent à des personnes qui ont une sensibilité politique, qui viennent d'un milieu où ils sont en capacité de s'intéresser à ces sujets-là, qui ne sont pas au jour le jour à essayer de survivre, ça reste un entre-soi. Il est grand et on peut quand même faire des grandes choses au niveau de notre société avec tout ce potentiel de gens-là, mais ça reste quand même un entre-soi. Ouais. Okay.
Et depuis que vous avez commencé vos activités, est-ce que vous voyez une évolution positive quand même au fur et à mesure ?
À fond. Avant, moi, pendant 2 ans, il n'y avait que 7000 personnes qui étaient abonnées à mes vidéos. Ça a stagné comme ça pendant vraiment 2 ans avec les vidéos militantes. Et depuis que j'utilise des formats web qui marchent bien, que je mets une vidéo par semaine et que je traite de plein de sujets différents, bah voilà, je suis à 80 000 abonnés maintenant et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Donc, et il y a de plus en plus aussi d'organisations qui sont intéressées par travailler avec Partager C'est Sympa pour faire des vidéos. Donc ça aussi, ça montre une reconnaissance à la fois de plus en plus de gens qui s'intéressent au sujet et plus en plus d'organisations qui sont prêtes à utiliser la vidéo et ces nouveaux formats-là pour communiquer. Donc ouais, on avance clairement rapidement, quoi. Ça, là, ce dont je parle, ça fait que 4 mois que j'ai commencé, en fait.
Okay. Ouais. Cool, merci.
Merci. Est-ce qu'il y a une auto là ? J'arrive.
Merci. Pour sortir de l'entre-soi, justement, dans ce que, pour sortir de l'entre-soi, justement, dans ce que vous avez parlé du quart des gens les plus intéressés pour passer aux gens un peu moins intéressés. Donc, il y a au final changé le format des vidéos, mais est-ce qu'il y a aussi une démarche active de contacter des gens ? Est-ce que vous pouvez partager ma vidéo ? Ou est-ce qu'il suffit que de faire des bonnes vidéos et puis tout le monde va les connaître ?
Eh ben, quand j'ai vraiment une bonne vidéo, j'ai pas besoin de faire beaucoup de diffusion. Mais je consacre quand même chaque semaine 2 jours entiers à faire de la diffusion. Et clairement, je fais des gros efforts. J'écris des messages perso aux administrateurs de grosses pages Facebook. Et je fais aussi un repérage de toutes les pages Facebook qui traitent de près ou de loin du sujet dont je traite dans ma vidéo. Et je leur propose la vidéo aussi. Avec 2 formats, soit il la partage et là c'est très simple, c'est juste tiens regardez il y a ce truc là qui est sorti, soit il la cross-post et ça c'est le plus intéressant pour moi parce que ça veut dire qu'ils hébergent la vidéo que j'ai fait comme si c'était la leur et ils se reconnaissent vraiment dans le message que je transmets, ok. Et voilà, il y a ces 2 formats là, mais effectivement chaque semaine on essaye de trouver des nouvelles personnes, des nouvelles pages, des nouvelles orgas qui pourraient diffuser notre message. Et c'est un travail constant, vraiment. C'est ça qui change aussi beaucoup des milieux militants. Je voyais très bien que c'était ah bah voilà, j'ai sorti la vidéo, bah on va demander à NVCOP21, Amis de la Terre, Alternatiba, et puis zou. Puis voilà, on a les copains qui ont partagé, et puis voilà.
Ouais. Merci.
Oui, moi l'entre-soi c'est mon problème parce que je suis dans un milieu un peu rural. On essaye de faire un peu des choses, mais effectivement on ressemble assez facilement dans l'entre-soi qu'on fasse des fêtes, des ciné-débats, etc. Donc oui, je suis venu un peu chercher des recettes ou pas, les conseils pour essayer de sortir de cet entre-soi. Là, tout récemment, j'ai vu, enfin c'était indépendamment, mais je viens de lire une BD sur les nanomatériaux. Effectivement, ça porte, c'est clair, etc. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et puis par contre, oui, la vidéo, on ne l'utilise pas. Bon, je te regarde de temps en temps, parce que je connais par ailleurs, mais pas directement dans l'activité militante. Donc voilà, ce que j'essaye de faire en venant ici, c'est d'essayer d'imaginer comment est-ce qu'on peut élargir notre public, nos interlocuteurs, pour essayer de monter un petit peu la réflexion, etc.
Si. J'ai réalisé ça, que cette conférence, elle était sur sortir de l'entre-soi par l'image, donc parler de ce qu'on fait nous. Mais en fait, moi, j'ai essayé de faire une vidéo justement pour sortir de l'entre-soi individuellement et réussir à parler à des gens qui sont pas intéressés par le sujet ou qui ont des croyances différentes. Et c'est 5 trucs pour parler avec un connard. Donc vraiment, si tu veux 5 outils pour justement réussir à parler à quelqu'un qui pense pas comme toi et qui est pas intéressé forcément par le sujet, c'est ça. C'est d'abord reconnaître ce qui est important pour elle et après ça, parler de construire là-dessus, quoi.
Il y a aussi la recherche du plus petit dénominateur commun. En fait, on n'a jamais rien à voir avec quelqu'un et on n'a jamais rien qui nous rapproche. Donc plutôt commencer à voir quel est le... Je sais pas si c'est la cuisine, ça marche vachement. Enfin, ça peut être la musique, ça peut être n'importe quoi qui n'a rien à voir avec nos préoccupations ici, mais qui commence à faire du lien. Et puis, pas dans une optique de stratégie, mais en tout cas, par exemple, nous, sur les supermarchés, moi, je la voyais comme une enquête sur l'accaparement des terres. Et en fait, en discutant avec des petits commerçants de centre-ville qui voient la concurrence des hyper en périphérie ruiner leur commerce, ils sont pas du tout écolo pour un sou. Et pourtant, le sujet leur parle vachement. En fait, ça dépend comment on aborde les questions. Et il y a toujours une manière d'aborder les choses qui fait que ça résonne pour les gens. Je pense que c'est un bout de solution, quoi.
Pour une autre question.
Bonjour. Question surtout adressée à Vincent. Comme toi, je fais de la vidéo depuis quelques temps. Et ce que tu fais, c'est vraiment ce que j'aimerais faire, c'est-à-dire faire de la vidéo, mais utile et qui amène quelque chose, qui fait avancer les choses. Maintenant, la question que, pour le moment, j'arrive pas forcément à solutionner, c'est la question du modèle économique. Et du coup, j'ai beaucoup entendu que tu disais « on, nous ». Donc, si ça ne te gêne pas, j'aimerais savoir un peu comment tu en es arrivé à pouvoir justement travailler pour des structures intéressantes et faire des choses auxquelles tu es sensible. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que tu disais tout à l'heure, je le rencontre. Même bénévolement, quand des fois on propose de la vidéo, on rame. Et bénévolement, je parle, hein, sans demander d'argent. On rame parce que les gens, en effet, ont un budget flyer, ont un budget ceci, ont un budget cela. Mais ils ont l'impression que la vidéo, c'est pour s'amuser ou c'est fun ou c'est pas un moyen de communication efficace. Et du coup, moi, j'aimerais à terme faire un peu ce que tu fais, mais j'arrive pas pour le moment à me dire quel est le modèle économique qui peut permettre de faire ça, quoi, d'avoir ce genre d'activité-là avec des assos qui, en général, font passer les budgets com ou en tout cas les budgets vidéo un peu en bout du chemin, etc. Alors, je comprends qu'avec ta chaîne à toi, tu as réussi à avoir un aura et que cette aura, du coup, ben, on en veut. Mais voilà, il y a vraiment une question de comment on fait pour arriver à un modèle économique qui tient la route, quoi.
Merci. Ben, je vais essayer de répondre d'une manière qui puisse servir aussi à tout le monde parce que, en fait, c'est par rapport à la manière dont s'est lancé ce projet de vidéo-là. Mais je pense que d'autres projets peuvent se lancer sur ce format-là. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai commencé au tout début, quand je suis arrivé en France, du coup, il y a plus de deux ans maintenant, à travailler gratuitement pour des orgas. Mais avec une condition quand même assez claire qui est que faites-moi confiance, ok ? Je vais m'emparer de votre sujet et je vais en faire un truc qui est beau. Et en fait, le premier contact que j'ai eu, c'était avec Alternatiba. Ils passaient à Lyon le lendemain de mon arrivée et ils ont vu un type qui courait partout avec une caméra et qui, après ça, leur a demandé de faire une interview. Et puis, une journée après, ils avaient une vidéo qu'ils ont utilisée pendant presque les deux ans qui ont suivi. Donc, c'était ça. C'était vraiment leur dire, genre, je fais un truc, faites-moi confiance, vous allez voir, ça va être chouette. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, travailler avec de plus en plus d'orgas, mais surtout sur la base de la confiance et de la co-création. Pour moi, c'est très clair dès le début de ce projet-là. Je ne suis pas un prestataire de service, je suis vidéaste activiste. Et ma mission est aussi celle que portent ces orgas-là, tu vois. Et c'est assez clair pour elle que, du coup, j'ai pris beaucoup de temps à chaque fois pour que la manière dont fonctionnent les vidéos, ce soit aussi basé sur la gratitude et l'expression de la gratitude, que s'il n'y a pas d'argent, et ben, il y a toujours de la gratitude pour les vidéos qu'on fait. Et c'est vraiment comme ça que lorsque j'ai décidé de me lancer avec ce nouveau format que je ne savais pas encore faire, qui est le vlog, les orgas, ils m'ont dit, écoute, on t'a fait confiance jusqu'à maintenant, donc vas-y, tente un truc, quoi. Et ça, c'était parce que cette relation de confiance s'est construite au fur et à mesure avec plein de vidéos gratuites. Et c'est aussi elle qui, aujourd'hui, m'aide à aller chercher du financement au niveau européen, ce que je pourrais jamais autrement, en fait. Parce que je connais pas ces gens-là et je connais pas ces structures-là. Et eux me portent, disent, en fait, ce qu'ils font actuellement nous sert vraiment, donc il faut que vous le financiez, aussi pour que ça reste gratuit pour toutes les orgas que je mets en avant et que le message se diffuse. Mais clairement, pour moi, il y a une part de communiquer un rêve, pas être en termes de prestataire, pas être dire voilà ce que je fais, est-ce que t'en veux, mais être ça c'est mon rêve, je vais le faire de toute façon, est-ce que ça te dit qu'on le fasse ensemble? C'est ça la logique que j'essaie d'avoir dans ce projet-là et que j'ai depuis le début et je pense que c'est un des éléments clés pour faire de ce genre de métier gagner son pain aussi et construire ce truc-là, quoi.
Moi j'ai été confronté à un troisième type de public. Donc il y a effectivement d'un côté les personnes qui connaissent pas le sujet et qui s'y intéressent pas, les experts qui sont prêts à tout pour ça. Mais j'ai aussi beaucoup de personnes qui connaissent le sujet et qui souhaitent pour des problématiques de peur ou de manque d'énergie n'arrive pas à franchir le pas et à réellement mettre en œuvre les solutions dont pourtant ils sont parfaitement conscients. Ça peut être sur des trucs tout basiques comme simplement le tri ou moins utiliser sa voiture. Et à la fin, on va nous répondre qu'on a la flemme, ou qu'effectivement, il y a peut-être un mécanisme de peur. Et comment, dans la communication, vous arrivez à franchir ce cap-là et à donner envie.
Merci.
Partager, c'est sympa. C'est-à-dire que d'abord, moi, vraiment, un des objectifs principaux de mon projet, c'est rendre l'activisme cool. C'est des belles personnes, c'est des beaux moments. Il y a une énergie de ouf. Et c'est ça que j'essaie de transmettre dans mes vidéos. Et du coup, t'as envie d'y être, tu vois, t'as envie de t'engager aussi. Et je montre aussi que c'est simple, qu'il y a plein de gens qui accompagnent aussi le changement. Mais après, moi, au niveau individuel, quand je rencontre des personnes qui sont justement plutôt dans une peur, ou même dans une... Ils savent, mais ils veulent pas savoir, tu vois. J'essaie de les rejoindre là où ils sont, encore une fois. C'est-à-dire mettre en avant essayer de faire un peu résonner en eux l'envie qu'ils auraient de faire quelque chose. Et souvent, ça, je vais le faire en parlant de moi, plutôt qu'être genre, mais pourquoi toi, tu fais pas ça ? Le toi, je le vire, ok ? Et je vais dire, moi, j'ai du bonheur à réaliser que je consomme de moins en moins. Ou moi, j'ai vécu un moment génial, là, où je suis allé dans telle petite épicerie et j'ai acheté tout en vrac, c'était trop cool. Si tu veux, tu viens avec moi la prochaine fois, tu vois ? Et c'est comme ça que j'essaie de communiquer, et je pense que ça se ressent aussi dans les vidéos, c'est pas de culpabilisation, de l'envie, et de la facilité d'accès. Il faut que ce soit vraiment facile et qu'il y ait des étapes pour chaque personne. Et dans la manière dont se construisent mes vidéos, à chaque fois, à la fin, il y a un appel à l'action qui est traduit en trois points. Un appel à l'action individuelle, un truc que tu peux faire toi, qui est facile à ton niveau. Un appel à l'action collectif, rejoindre telle ou telle manifestation, telle ou telle protestation qui est en train de s'organiser. Et un appel à l'action politique. S'il y en a pour lesquels aussi c'est une étape qui est possible de faire, mais qui n'est pas simple pour tout le monde, ok ? Et des fois, c'est dur de choisir, parce que je réalise aussi que les gens ont une espèce de quantité limitée d'engagement possible. Et du coup, si je leur dis, tiens, regarde, signe cette pétition, ou alors, viens pendant 4 jours bloquer le sommet, ils vont choisir signe cette pétition, tu vois. Donc, il faut que je sois aussi pas trop con dans quand est-ce que je parle de quelle solution. Et typiquement, si je dois parler de la pétition, je vais en parler un peu au milieu. Comme ça, peut-être tu le fais au milieu. Puis à la fin, quand même, je vais parler de la mobilisation qui s'organise, etc. Mais pour moi, c'est juste... j'ai réalisé que j'aimais aller à des différentes manifs. Et, enfin, justement, pas des manifs, j'aime pas les manifs. Mais différentes actions de désobéissance, différentes mobilisations qui s'organisaient parce que je retrouvais des gens qui était motivant, qui était motivé, qui était engagé, qui m'inspirait. Et c'est ça que j'essaie de mettre en avant dans le vlog des gens qui se bougent, c'est donner ces visages pour que plutôt que tu te dises « je vais rejoindre un truc politique important », je vais te dire « je vais rejoindre Jacques, Jean et Stéphanie ». Et ils ont l'air cool. Et du coup, on va passer un bon moment.
Oui, ok. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si c'est vraiment une question. C'est juste déjà pour dire que ce que vous faites, c'est plutôt cool, c'est chouette. Moi, je suis président d'une asso dans un département voisin, enfin une vieille asso, quoi, mais où vraiment le fait de justement de sortir de l'entre-soi, c'est vraiment quelque chose qui résonne pour nous, parce que c'est pas forcément dans les pratiques habituelles où beaucoup d'associations, on va dire plutôt progressistes, que ce soit environnementales, sociales, pour la protection des droits ou je sais pas quoi. Alors peut-être qu'à Lyon c'est un petit peu différent parce qu'il y a un attroupement. Moi je suis plutôt de zone rurale où il y a une crainte, une peur de ne pas arriver à renouveler les administrateurs, les bénévoles, les militants, etc. Et alors qu'en fait, et du coup je trouvais qu'il y avait un truc où on se dit non, on va pas parler de ça, on est déjà pas beaucoup, on a déjà pas beaucoup de temps, alors que si on arrive à capter qu'en fait, il y a plein de gens qui ont envie de faire plein de choses, plein de petites choses ou de grandes choses, de moyennes, de peu importe. Juste de leur dire, venez avec nous, quoi. C'est un peu le sens de ce que vous faites tous les deux, quoi. Mais de dire, tout le monde a un truc à faire, quoi. Ou peut avoir un truc à faire. Enfin, il n'y a pas une histoire de destin, mais juste si on se dit, je suis un citoyen, je suis une citoyenne, la problématique m'intéresse. Je sais pas, je vois un truc sur le Roundup. Je veux dire, je suis pas agriculteur, mais enfin, en l'occurrence, moi je le suis. Mais admettons quelqu'un qui l'est pas, de dire, je me sens concerné, pas forcément individuellement, mais par l'état de santé des enfants de mon école ou par à l'autre bout du monde pour produire ça ou ceux qui vont l'utiliser, peu importe, eh ben, j'ai le droit de m'y intéresser. Mais j'ai aussi le droit d'écouter les gens qui utilisent au quotidien du glyphosate pour se dire que bah, peut-être que l'affiche glyphosate permis de tuer, ça permet de sensibiliser une certaine partie de la, de la population pour les encourager à les militer quand on est dans un rapport de force. Mais il y en a, ça fait 50 ans qu'ils utilisent de glyphosate et qu'on leur dit que c'est bien, quoi. Alors quand on leur dit glyphosate égale permis de tuer, voilà, il faut qu'on continue à le dire parce que c'est la vérité, mais d'essayer de se mettre aussi à leur place et de se dire comment on échange avec ces gens-là, quoi. J'en utilise pas, c'est pas le problème, mais et voilà, et du coup d'arriver à toucher comme ce que vous faites à la fois des convaincus, parce que c'est bien aussi de continuer à faire du réseau, etc. Parce que même entre assos, des fois on se connaît pas. Moi je suis dans un collectif pour la transition citoyenne, comme il y en a partout en France, dans la ville où on est. Et ben rien que les réunions, elles sont cool, quoi, parce que ça permet de rencontrer la CIMAD, ça permet de rencontrer le collectif migrant, et puis Attaque, et puis les incroyables comestibles, avec des gens qui sont pas tout à fait au final pareils, des âges différents, des parcours différents. Donc déjà ça c'est cool. Et puis après le fait d'arriver à se dire déjà que nous on n'a pas forcément raison. C'est-à-dire que le but, c'est pas forcément de convaincre, mais c'est déjà d'échanger, parce que même si on lit beaucoup de bouquins, même si on lit plein de reportages, même si on s'intéresse en profondeur à des trucs, on peut tomber dans un délire très intello-intellectuel, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas suffisant, et concrètement, sur le terrain, comment ça se passe, quoi. Et voilà, toutes ces vidéos-là, c'est cool, ça va dans ce sens-là, et on relaie notamment les vidéos... Parce que justement, vu qu'elles
sont pas associées... Attends, on va essayer de rebondir sur ce que t'as dit, parce que t'as dit genre quatre choses différentes et c'est chaud.
Bon, désolé. J'arrête, merci.
Moi, c'est sur le côté, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on imagine. Il n'y a pas les gentils, les méchants. Il faut sortir d'une vision manichéenne. Et ça, c'est aussi un défi qu'on a, nous, dans la manière dont on traite nos sujets. L'idée, c'est quand même de comprendre les sujets dans leur complexité. Et par exemple, je reprends l'exemple des algues vertes, mais il était impensable d'accuser l'agriculture bretonne sans donner la parole à un éleveur de porc. Et du coup, le fait de le faire, non seulement ça crédibilise le sujet, mais en plus, ça permet de... On est allé défendre ce sujet en Bretagne et il y avait des agriculteurs dans la salle et il y avait des sœurs et des cousins d'agriculteurs. Et en fait, je pense que le fait de pas être dans un dogme, quoi, ou dans une vision un peu idéologique, ou enfin de se confronter aux contradictions aussi qu'on peut avoir, de changer de perspective un peu de temps en temps pour se mettre à la place des gens, ça permet de toucher des personnes qui ont pas envie de passer pour les méchants, parce que clairement ils font partie d'un système qui est plus vaste qu'eux aussi. Et pour moi, c'est fondamental d'avoir cette diversité d'approche et de points de vue, sans quoi on, même pour soi en fait, non seulement pour parler aux autres, mais aussi pour éviter de tourner en rond, enfin penser un peu contre soi-même pour être d'autant plus fort dans ses convictions quand on les a bien attaquées, quand on les a bien critiquées dans tous les sens. Au bout d'un moment, tu dis non, voilà, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Pour autant, tu peux pas attendre pas de stigmatisation ou de vision trop simpliste des choses. Et ben, c'est pour ça qu'on dans le travail de journaliste, au-delà de la revue dessinée, prendre le temps vraiment de rencontrer les gens, d'y retourner, de comprendre comment leur situation évolue sur le temps long, c'est juste fondamental, parce que sinon on les met dans des cases en moins de 3 minutes. Et je pense que ça, pour faire de l'entre-soi, c'est la meilleure méthode, quoi, de pas prendre le temps de rentrer dans les tiraillements des individus et qui sont le reflet des tiraillements de nos sociétés aussi. Ça, c'était sur un des 4 points.
Ouais, moi ça me parle trop, l'épuisement en fait dans le monde militant, les mêmes personnes qui ont pris des grosses responsabilités avec une vision de ce que doit faire leur asso et qui n'arrivent pas après ça à intégrer des nouvelles personnes et à leur permettre aussi d'exprimer ce qu'ils sont venus chercher, tu vois. Ça, c'est un truc que je vois dans toutes les assos. Je vois aussi des militants qui s'épuisent parce qu'ils sont tellement passionnés par leur truc qu'ils n'arrivent plus à prendre soin d'eux. Et en fait, là-dedans, il y a une espèce de... c'est un sujet que j'aimerais bien aborder dans certaines vidéos dans le futur, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à prendre soin de soi tout en s'engageant dans les trucs qui sont importants et qui sont urgents en plus souvent, et en même temps comment on arrive à permettre à chacun d'arriver avec sa créativité, son envie, sa vision de quel peut être le problème et lui donner l'espace pour le faire, tu vois. Et l'exemple pour moi que j'ai d'une asso qui arrive à faire ça assez bien, c'est Génération Cobaye. Il n'y a que des jeunes quasiment. Et juste quand tu arrives, ils te disent qu'est-ce que tu as envie de faire. Et puis tu le fais. Et c'est pas grave si au début bah, tu tâtonnes, tu maîtrises pas trop les sujets, des perturbateurs endocriniens, tu te trompes, mais c'est pas grave. T'es déjà un peu sur le sujet et au fur et à mesure, bah, tu vas te former avec les autres avec lesquels tu vas faire des choses. Et il y a un peu une. Je pense qu'il y a un besoin dans le monde militant d'être en capacité de penser à la structure qu'ils ont créée. Et moi, j'ai envie de voir de plus en plus de structures militantes qui ont au cœur d'elles-mêmes l'envie de prendre soin les uns des autres. Que tu vas pas travailler sur telle ou telle affiche ou telle ou telle manif si t'as pas aussi l'occasion de prendre soin de toi. Et si dans la manière dont tu le fais, tu peux pas prendre soin de toi, alors je vais pas te demander de le faire, tu vois. Que ça fasse partie de la responsabilité de celui qui demande quelque chose à quelqu'un d'autre, de s'assurer que l'autre peut le faire en prenant soin de lui.
C'est marrant, ça résonne avec un sujet sur lequel on travaille pour le moment, enfin qui n'est pas encore sorti, mais sur la mécanique qui conduit au burn-out, et on se rend compte que des milieux qui normalement ne fonctionnent pas avec la logique des entreprises du CAC 40, les milieux associatifs, militants, sont hyper sujets à l'épuisement professionnel, quoi. C'est vraiment en fait, vu que la tâche est infinie, vu qu'il s'agit juste de changer le monde, enfin de le sauver, enfin de se sauver soi dans, ben évidemment qu'il y a toujours plus à faire et qu'on pourrait aller un cran plus loin, et du coup on est un peu son propre faut poser soi-même ses garde-fous, sans quoi on peut se cramer, et c'est assez édifiant. Enfin moi, c'était une des découvertes de l'enquête de la journaliste qui bosse là-dessus, c'était de se dire ah ouais, j'aurais jamais. Enfin, en fait, c'est pas forcément en cohérence avec les valeurs prônées, enfin d'un ralentissement, quoi, surtout dans les milieux décroissants ou autres. Et du coup, il y a une dissonance qui est hyper intéressante et en même temps qui est complètement compréhensible.
Et peut-être pour conclure.
J'allais vous le proposer.
La revue dessinée et mes vidéos sont des sortes de pieds dans la porte, en fait. Et c'est des pieds dans la porte si on les utilise comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de vous dire, emparez-vous de la revue dessinée, emparez-vous des vidéos partagées, c'est sympa, comme moyen d'aller vers d'autres et de les informer de tel ou tel sujet, tu vois. Je parlais tout à l'heure avec ATD Quart-Monde. Moi, j'ai beaucoup aimé faire des vidéos pour ATD Quart-Monde parce que c'est un mouvement qui a plus de... 50 ou 60 ans maintenant ? 60 ans de combat contre la misère. Genre, le sujet est simplissime, tu vois. Et en même temps, réussir à le traiter avec les vidéos que j'ai faites, c'est trop cool. Et je sais que ATD Quart-Monde utilise ces vidéos-là pour le montrer à des profs qui sont pas du tout sensibilisés sur ces questions de la misère, le montrer à des directeurs, à des recteurs d'académie, et que bah finalement c'est dit de manière tellement simple que ça permet de juste générer l'intérêt, et puis derrière le reste peut se faire, tu vois. Mais et puis bah encore une fois, comme les pieds dans la porte, l'idée c'est pas de le faire avec violence non plus, c'est juste de dire tiens regarde, j'ai trouvé ça super intéressant, tu peux le regarder si ça t'intéresse, et inviter les gens à acheter la revue dessinée ou à s'abonner à notre page, c'est gratuit, nous c'est l'avantage, et voilà.
Et nous, on met à dispo des PDF pour le milieu enseignant, universitaire, et pour les assos, nos sujets sur le nucléaire se retrouvent chez Sortir du Nucléaire ou autre. On est sur abonnement et en librairie, mais on essaye de faire vivre nos sujets le plus longtemps possible. On en a une bonne partie qui sont en accès libre aussi sur Internet si vous nous suivez sur les réseaux. Donc le but, c'est vraiment de diffuser un maximum. J'aime bien le pied dans la porte, c'est...
Et j'ai envie aussi de terminer en vous félicitant. Bravo d'être venu ici avec l'envie potentiellement de sortir de l'entre-soi. Et du coup, je vous propose de vous applaudir d'être venu ici.